RMC. La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Alors parfois je m'amuse, si je puis dire, à poser cette question à l'un de mes amis qui m'évoque ses gros problèmes de cœur. Et je lui pose la question, donc préférerais-tu qu'il ou elle te quitte ou tout simplement qu'elle disparaisse, qu'elle meure? Alors je sais que la question est très provocante, mais c'est justement pour provoquer un électrochoc. Parce qu'on parle beaucoup d'amour, mais sans forcément toujours vraiment savoir qui on aime. Est-ce soit à travers l'autre ou est-ce qu'on aime vraiment son ou sa partenaire, au point justement d'accepter qu'il s'en aille pour une autre. C'est d'ailleurs le sujet d'un livre de Jérôme Arnaud Wagner qui viendra nous en parler tout à l'heure. Mais je vous propose que c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Pascal Neveu qui est psychanalyste. Et je ne doute pas de cette capacité à donner sa vie pour l'un de ses enfants. Je suis beaucoup plus sceptique en ce qui concerne le couple. On verra ce qu'en pense Pascal Neveu dans un instant. Et bien sûr, je vous invite à donner votre avis ou à témoigner. Pour cela, un seul numéro, le 3216. Après 15h20, c'est Emma Domas qui sera avec nous avec sa douce voix de chanteuse. Eh bien, elle se confiera en toute intimité. Et si vous avez envie de lui poser une question, n'hésitez pas, vous pouvez composer dès à présent le 3216. Je rappelle que Emma Domas, elle était à la Starac et c'est elle qui a perdu face à Nolwenn à l'époque. Et c'était un match particulièrement serré. Et puis aujourd'hui également, notre fil d'Ariane nous évoquera l'art vaginal. Une petite clé pour résister à la tentation également. Et puis Judith qui a testé pour nous le jeu 69. Pascal Neveu, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Oui, vous êtes, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas simple. On aime quelqu'un, mais parfois on préférerait presque qu'il meure plutôt qu'il nous quitte pour quelqu'un d'autre. C'est quand même, ça paraît fou, quoi.
C'est très compliqué, mais c'est également très tordu, comme nos histoires d'amour, parce que dans l'amour se conjugue l'amour, la haine, et le fait de projeter sur l'autre parfois des sentiments qui sont très hostiles. Maintenant, la question que vous posiez il y a deux secondes, c'est-à-dire, est-ce que il est plus compliqué, est-ce qu'il est plus facile, pardon, de sacrifier sa vie pour un enfant que pour son compagnon, sa compagne, ouais. Son mari, sa femme, probablement parce que en plus chez la mère a le droit de vie et de mort sur son enfant. C'est le mythe de Médée, hein. Vous voyez ce qu'elle a fait par amour à un moment donné, elle a préféré sacrifier ses enfants. C'est très complexe cette histoire. Maintenant, comment se construire, comment se reconstruire lorsque l'autre s'en va? Quand je dis s'en va, c'est-à-dire qu'il quitte le foyer et il est encore vivant, ou au contraire, il décède. Et les mécanismes psychiques sont à peu près similaires, bon, un peu singuliers.
Il y a un deuil à faire de toute façon.
Et des deuils de question. Maintenant, pour aimer l'autre, il faut également s'aimer soi-même et vice-versa.
Oui, mais c'est vrai que perdre l'autre pour quelqu'un d'autre, ça provoque en soi une telle blessure que parfois on ne peut pas la, veut pas la vivre. Quoi.
C'est une blessure profonde parce que on se remet pas en question. Hein, parfois on ne connaît pas non plus les raisons de cette séparation. Et il faut faire le deuil de certaines réponses. On est sur des cas parfois extrêmement complexes où on ne se remet pas d'un amour. On a cru, c'est pas qu'on a cru d'ailleurs, on a pu le vivre. Un amour extrêmement sincère, et puis on est dévasté, on les détruit, on s'effondre lorsque l'autre disparaît.
Voilà, mais en tout cas, on touche évidemment peut-être les deux choses les plus essentielles de la vie, hein, c'est-à-dire l'amour et la mort. Hein,
les deux faits, si je puis dire, sont totalement corrélés. Hein, de toute façon, et Freud disait, hein, l'erreur, c'est pas la mort, c'est la vie. C'est ça qui est complexe parce que c'est rempli d'épreuves et de séparations multiples. Mais les séparations, on les vit dès le début. Séparation déjà du corps de la mère, séparation du cordon ombilical. Séparation ensuite du premier objet d'amour qui est la mère pour aller vers un peu le papa, vers d'autres histoires d'amour, le complexe d'Œdipe qui est très compliqué également, qui est rempli d'amour et de haine, hein, dans des relations extrêmement duales, très conflictuelles, et puis l'adolescence également qui sont des épreuves de séparation où on dit à ses parents je t'aime plus ou j'en préfère d'autres, etc. Donc on est sans cesse confronté à ces histoires.
Sans compter, on l'a encore vu hier malheureusement, que l'adolescence c'est aussi une période où on peut avoir envie de se suicider.
C'est une période malheureusement très dépressive chez l'adolescent qui nécessite toute la vigilance et l'accompagnement nécessaire.
Voilà, donc on aborde ces sujets-là parce que c'est vrai que j'ai J'entends trop souvent cette notion que quand on aime vraiment, enfin, etc. Je pense que l'amour est beaucoup plus complexe que...
Tout dépend si on aime l'autre ou si on aime l'amour.
Oui,
parce que déjà là, ça complexifie les choses.
Vous êtes d'accord, l'amour, c'est pas un long fleuve tranquille, tout rose, contrairement à ce
qu'on aimerait. Jamais, jamais. Je pense qu'on est tous là pour en témoigner.
Franck est avec nous. Bonjour, Franck.
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Franck.
Bon, en fait, moi, c'était un amour d'adolescence, justement. Et j'avais rencontré une fille quand j'étais ado. Et dans un centre, elle faisait du cheval, Brigitte, vous voyez, donc c'est un peu ce que vous aimez.
Donc c'était une fille très bien.
Ah, elle était géniale.
Bonne à épouser.
Comment expliquer, c'était tout neuf, parce que moi, j'étais dans ma campagne, et donc elle venait faire un stage de cheval, et je l'avais rencontrée à la piscine par hasard. J'étais tellement follement, tellement fou amoureux d'elle, quoi. Et c'était vraiment une relation... Et elle habitait à 120 km de chez moi, donc quand elle est rentrée dans son foyer, nous à l'époque, bon, j'ai 45 ans, donc j'avais 15 ans, donc c'est une trentaine d'années, on n'avait pas les portables, etc. Quoi. Et mais comme vous dites, j'étais prêt à me balancer en l'air, et je ne la renvoyais pas. Et donc j'étais parti en mobylette, j'avais fait 120 km en mobylette pour aller la rejoindre. Quoi. Et donc du coup, c'est vrai que c'est... Ça avait tapé sur le système et c'était vraiment un amour comme si c'était il y a plus que ça qui comptait, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais en même temps vous le dites bien, vous étiez adolescent, c'est des moments où on vit les choses totalement de manière intense, hein.
De manière très passionnelle, hein. Voilà. Et effectivement l'amour rend fou dans ces cas-là, mais il rend fou tout le temps. Moi je considère que l'amour est avant tout une pathologie, hein. Faut pas se voiler la face. Maintenant c'est très doux, hein. Il faut en profiter.
Mais oui, ça c'est bien une parole de psychanalyste. L'amour est une pathologie bio.
Mais on dit souvent que grâce aux IRM, etc., on a fait beaucoup de progrès par rapport aux observations du cerveau. Et on dit qu'un adolescent amoureux, on ne voit pas de différence avec un IRM d'un toxico qui prend de la cocaïne. Ça exerce les mêmes, les mêmes zones et... on perd complètement pied, quoi.
Ouais, il vaut mieux l'amour que la cocaïne, hein, entre nous,
hein,
tout de même. mais effectivement, ça sécrète énormément d'hormones, des endorphines, plein de choses qui sont bénéfiques pour nous également, hein, qui permettent à notre corps, à notre psychisme d'exister, d'exulter également, hein, comme disait Brel.
Oui, et bien, en parlant d'un autre chanteur, Jonas, dans une de ses chansons, il disait, dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Donc, on active des névroses avec les personnes.
C'est vrai que c'est beau cette phrase, oui.
Ah oui, moi, c'est une des phrases qui m'a marqué beaucoup, parce que c'est vrai, on peut accepter que quelqu'un parte pour quelqu'un d'autre, mais pas à cause de ce qu'on a fait, quoi. Et c'est très dur de dire qu'on a loupé quelque chose parce qu'on a eu un mauvais comportement, quoi. Donc,
c'est très joli ce que vous dites. Mais Franck, ça s'est terminé comment, alors, cette histoire avec cette cavalière?
Ah, ben, vous savez, il y a encore 5-6 ans, on avait encore des relations. Après, bon, forcément, c'était plus compliqué. Mais on est resté vraiment... c'était vraiment une passion, quoi. Ouais, on s'est revus plusieurs fois et... c'était vraiment, ça fait partie des belles images, des belles histoires de mon adolescence, quoi, vous voyez. J'aime bien y repenser de temps en temps, même si maintenant on se revoit plus parce que bon, nos vies ont fait que on a des enfants et etc.
Mais c'est donc, pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble? Enfin, vous avez l'air d'en parler avec tellement d'admiration, d'amour,
de nostalgie.
Bah, parce que je pense que chacune de nos vies, on a idéalisé des personnages ou des personnes parce que elles nous ont apporté confiance ou autre. Et ces personnes-là m'avaient, même si je l'ai pas revue, mais elles m'avaient donné confiance en moi parce que j'étais capable de séduire quelqu'un de différent, qui est autre que de mon contexte amical et des gens que je pouvais. C'était une personne qui était vraiment différente, qui était très intéressante et j'avais vachement idéalisé sur elle, quoi. Elle s'appelait Magali, elle adorait les chevaux et c'était vraiment une bonne personne, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous appeler pour
mais
en
vous,
parler.
Vous avez enfourché votre mobylette pour aller la voir de toute façon, donc vous avez aussi joué au chevalier quelque
c'est
part.
C'est très symbolique.
Exactement.
Tout ça.
Non, j'ai l'impression, Franck, mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'elle était peut-être presque trop bien pour vous par rapport à ce que vous pensiez de à l'époque.
Oui, parce que souvent, quand on est ado, on n'a pas confiance en soi. Et puis, je m'étais cassé justement la figure en mobylette et elle avait pris soin de me soigner, etc. Elle avait eu des attentions que personne d'autre avait eues avant, quoi. Donc, c'est vrai que ça avait donné un intérêt. Et puis, souvent, les gens qui vous donnent beaucoup, vous avez envie de leur donner beaucoup. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est ça,
bien
l'amour,
sûr.
Quoi. Et c'est pour ça que c'était une des premières filles qui avait prêté attention à moi. Et en plus, elle était belle. Elle était vraiment, elle avait, une belle personne, quoi. Voilà.
Écoutez, merci de ce témoignage, c'est un joli témoignage, Franck. Merci beaucoup.
Merci, Franck. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne. Merci pour vos émissions, Brigitte. Comme je vous dis encore, c'est vraiment super. Et puis merci à votre invité.
Merci à vous, Franck.
Je vous souhaite une bonne après-midi.
Merci, Franck. Au revoir.
Au revoir.
Max, bonjour.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour, Max.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Pascal.
Bonjour, Max.
Voilà, je me présente. Max, j'ai 33 ans. J'habite dans la région lyonnaise. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec mon couple. Nous avons deux enfants. Ça fait 3 ans qu'on est mariés et 7 ans qu'on est ensemble. Mm-hmm. Nous avons une petite fille de 4 ans et un petit enfant de 1 an et demi, un petit garçon de 1 an et demi. Et ça fait à peu près 2 mois que rien ne va plus dans notre couple. Mm-hmm. Enfin, rien ne va plus. De mon côté, tout va bien. Mais de son côté à madame, rien ne va plus. Elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus si elle a des sentiments pour moi.
C'est venu comme ça ? Il y a eu des signes avant-coureurs ou pas du tout ?
Non, pas trop.
Mais il me semble que votre, malheureusement, votre cas est assez classique. C'est-à-dire, vous avez vécu longtemps ensemble, vous vous mariez ensuite, vous avez 2 enfants. Le dernier, il a 1 an et demi. Et j'ai l'impression que c'est la situation de parents qui a mis un petit peu du trouble dans l'esprit de votre compagne.
D'accord.
Peut-être qu'elle n'est plus du tout aujourd'hui dans une capacité d'être votre amante au sens symbolique du terme. Elle est trop maman et épouse.
Oui, mais c'est ça. Elle est beaucoup maman parce qu'on travaille beaucoup. Moi, je suis chauffeur taxi dans la région lyonnaise. Elle tenait un commerce, un salon de coiffure. Du coup, pour le deuxième enfant, elle était obligée de cesser son activité.
Et
depuis, elle travaille plus.
Ouais. Donc elle ne s'y retrouve plus en fait. Il y a une problématique identitaire, comme si effectivement elle était maintenant mais emprisonnée dans ce rôle d'être maman.
Voilà.
Elle exprime cela ou elle exprime ses frustrations ?
Non.
Elle ne sait plus très bien parce qu'elle a des sentiments qui sont différents pour vous puisque vous êtes le père de ses enfants, vous êtes son mari. Elle a des sentiments différents pour vous et donc elle se reconnaît plus. Vous voyez, moi je crois que vous avez vraiment besoin là d'aller consulter quelqu'un tous les deux pour que quelqu'un puisse l'aider à comprendre que ben oui, elle a des sentiments différents, mais ça veut pas dire que c'est plus de l'amour.
Elle veut pas en entendre quoi, elle veut pas entendre parler de ça. Je lui dis d'en parler à sa meilleure amie, elle veut pas en parler à sa meilleure amie. Moi j'en ai parlé à mon meilleur ami parce que.
Elle est pas un peu déprimée quelque part parce que ce que vous dites là, si elle veut plus parler à personne, tout
c'est ça,
ça, ça semble plutôt être signe de déprime.
Voilà, j'ai l'impression qu'elle se renferme sur elle-même.
Quoi. Oui, donc
elle
il faut.
Elle fait plus grand chose, elle reste à la maison, elle fait son ménage, elle s'occupe des enfants. Et voilà, quoi. Et moi, comme je vous disais, j'en peux plus, je pète un plomb.
Oui, elle a plus de désir, elle a plus rien.
Sincèrement, il n'y a plus de rapport, il n'y a plus rien.
Parce qu'elle est.
Tout s'est éteint, en fait. Comme si tout était mort. Effectivement, normalement, lorsqu'on a des insatisfactions, on en parle à ses meilleurs amis, on en parle un peu à ses parents, à sa mère. Là, elle ne le fait pas, donc il y a quelque chose d'un petit peu plus lourd, derrière tout cela.
D'accord.
Je pense qu'il faut, Max, il faut en parler. Oui, il faut en parler au médecin, là, et peut-être qu'elle lui donner un traitement anti-déprime.
D'accord. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle veut plus de moi. Elle m'a même dit, je lui ai même.
Mais elle veut plus rien à part ses enfants. Même plutôt bon signe. Ça prouve qu'il y a quand même encore quelque chose qui vibre.
Voilà, parce qu'elle s'en occupe des enfants tout de même.
Oui, elle s'en occupe très très bien.
D'accord.
Et quand on reçoit des amis, on va manger avec des amis, tout se passe bien comme si de rien n'était.
D'accord.
Pour vous dire, on n'a plus de relations, il n'y a plus de bisous, je l'aime très 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 fort. Je l'aime très fort. J'ai pas envie de les perdre, surtout ma femme. J'ai pas envie de la perdre. Elle me dit que ça me ferait du bien de partir un petit moment.
Mais il faut pas que vous partiez. C'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, je crois qu'il faut
Si elle est d'accord pour aller en discuter auprès d'un thérapeute, aller chez un thérapeute de manière à ce qu'elle comprenne, elle mette des mots là sur ses mots, comme je le dis très souvent. Où est sa souffrance? Où est-ce son insatisfaction? Là, tout est mort dans sa vie, là, visiblement.
Voilà,
tout est trop focalisé sur les enfants.
Ouais, c'est bien ça, parce que moi, elle me dit, à mon niveau, de ce que je fais moi, ça ne la dérange pas, parce que je fais tout. En fait, je fais tout. Je fais, à la maison, je suis là avec elle, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison. Voilà, on partage les tâches, quoi. Elle ne fait pas tout toute seule. Et elle me dit, ça ne vient pas de toi. C'est plus où elle en est.
Mais il faut l'aider justement à retrouver le goût de vivre, Max. Je crois que c'est vraiment le déclic là qu'il faut trouver.
Allez en discuter. Bon courage.
On va passer à l'onde positive du jour. Justement, on va parler du grand amour. C'est vrai, le grand amour avec un grand A et un grand G. C'est vrai qu'on en rêve tous de ce grand amour. Et puis, je crois qu'il faudrait tout simplement lui consacrer l'énergie qu'il mérite. Parce que c'est vrai que quand on est dans une belle relation, on va parler de l'homme ou de la femme de sa vie. Puis finalement, est-ce qu'on donne tout? C'est pas sûr. Donc,
on peut pas tout donner, je pense.
Non, mais enfin,
il faut donner le maximum.
Voilà, au moins essayer de donner
c'est
le maximum.
Être attentif à l'autre, être attentif à soi-même et cultiver le bonheur, si tant est que le bonheur existe.
Attendre
vers le bonheur.
Bah oui, il existe. Allez, on se retrouve dans un instant avec Séverine qui veut témoigner et qui justement a su laisser partir son compagnon. Elle nous dit ça dans un instant.
RMC, 14h-16h, la haine, l'amour et vous. Mère au foyer, femme active, ado, en couple ou célibataire, tous chez Brigitte sur RMC.
Pascal Neveu est avec nous et on évoque l'amour, la haine, la vie, la mort. Et c'est donc vous, Jérôme Arnaud-Wagner, qui m'a donné l'envie de traiter ce sujet grâce ou à cause de votre roman La vie ou la mort aux éditions du Cherche Midi. Bonjour.
La vie ou l'amour, bonjour.
Oui, pardon, j'ai dit la vie ou la mort, hein, c'est ça.
Oui, mais justement, il y a un jeu de mots.
Oui, bien sûr. Je suis tombée dedans. Alors, vous avez écrit ce roman. C'est un roman à tiroir. Hein, c'est difficile. Je ne vais pas en raconter l'histoire parce que c'est assez compliqué, mais en tout cas c'est le cas de conscience qu'a votre héros. Soit il reste avec sa femme mais elle risque de mourir, soit il la quitte. Hein, si on
oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait ils ont vu une voyante qui leur a dit à l'un et à l'autre séparément, si vous ne pouvez pas, votre destin n'est pas de vivre ensemble sur cette terre. Donc dans un premier scénario de vie, elle va décider de se sacrifier pour qu'il puisse vivre avec ses enfants et l'amour de ses enfants. Et dans un deuxième scénario de vie, puisque j'imagine que le héros peut revivre sa vie, un peu comme dans le...
Oui, non, c'est pour ça que je disais que c'était un tiroir. On va pas raconter parce que c'est pas ça le propos, il faut le lire.
Oui.
Mais ce qui est, en fait, c'est ça qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'au fond, en tant que lecteur, on se pose la question, oui, est-ce que je pars, est-ce que je reste? C'est compliqué, c'est finalement très compliqué de savoir comment soi-même on réagirait, non, Pascal Neveu?
Ce sont des questions mais existentialistes extrêmement profondes. Moi, ça m'a interpellé ce livre parce que ça amène à beaucoup de questions très dures, mais qui font partie de la vie. Et c'est très très intime, très personnel. Hein, et on le lit, mais d'une traite en plus, parce que il y a un rythme très intense, il y a énormément de rebondissements. J'invite les auditeurs à parcourir cet ouvrage qui peut paraître un peu rude comme ça, mais pas du tout. Je pense que ça parle de la vie avant tout et de notre vie, la façon dont on doit gérer à un moment donné notre vie et quelles décisions on doit prendre.
Oui, en fait, moi j'écris beaucoup, c'est mon cinquième livre, mais j'écris beaucoup à partir de mes expériences de vie et de mort, puisque comme vous le savez, moi j'ai perdu ma femme très brutalement, elle avait 35 ans, et elle me laisse seule, donc avec des jumeaux, qui avaient 4 ans à l'époque, et donc j'ai écrit mon premier livre d'ailleurs, N'oublie pas que je t'aime, qui était qui m'a fait connaître en tant qu'écrivain. Bon, là maintenant j'écris des fictions, mais j'écris toujours quand même sur ces thématiques qui évidemment me tiennent forcément énormément à cœur, donc l'amour, la mort, le destin, le sens de la vie. Et donc c'est vrai que là j'avais envie, et c'est ce que permet la fiction, d'aller jusqu'au bout de l'exercice et me dire finalement, si j'avais pu sauver ma femme, est-ce que ma vie aurait été pour autant meilleure? Parce que on a tendance à se lamenter sur son destin, à se dire que c'est la pire des catastrophes qui vous est arrivée, mais finalement moi ça m'a peut-être que si elle avait vécu, peut-être qu'elle m'aurait quitté, ou peut-être que je n'aurais pas...
Vous auriez peut-être ronronné, enfin on ne sait pas.
Oui,
quoi,
je serais resté probablement peut-être très égoïste dans une vie de couple, alors qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai d'abord une relation extraordinaire avec ces enfants que j'ai élevés, qui ont 20 ans maintenant, qui avaient 4 ans à l'époque. On est d'une complicité dingue et on vit évidemment dans l'amour que m'a laissé ma femme Emmanuel, mais aussi ça m'a permis d'écrire, ça m'a permis de transmettre aux autres, ça m'a permis...
Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce roman, La vie ou l'amour, aux éditions édition de Cherche Midi, Jérôme Arnoux Wagner, parce qu'on voit bien que même si on perd l'être aimé, quelque part, il reste en nous cette étincelle d'amour, quoi. C'est ça aussi que vous voulez transmettre.
Oui, moi, je pense que le destin de l'homme n'est pas de mourir. Je pense que on n'a pas le choix entre la vie ou la mort, on a le choix entre la vie ou l'amour. C'est-à-dire que l'amour, pour moi, alors évidemment, je suis croyant, mais je crois que nous sommes là sur Terre pour rencontrer l'amour et que finalement, dans l'au-delà, c'est aussi l'amour qui nous attend. Par rapport à tous ces prêcheurs de mort justement qui vous disent, qui vous menacent de mort, je crois que la meilleure réponse qu'on a à faire, c'est l'amour.
C'est effectivement le meilleur ferment de la vie, l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour de l'autre et toutes ces rencontres qui nous enrichissent continuellement et perpétuellement. Alors effectivement, il y a l'amour continue à être incarné par vos enfants, c'est un très beau témoignage, hein, cet ouvrage. Mais je pense que on oublie trop dans notre société actuelle, effectivement, le côté très positif de l'amour. C'est le meilleur catalyseur, c'est le meilleur ferment d'une vie faite de bonheur. On en parlait tout à l'heure au début de l'émission avec Brigitte.
Mais parce que justement, l'amour aujourd'hui, on a un peu tendance à trop croire que l'amour, c'est ce qu'on porte à quelqu'un d'autre. Alors qu'au fond, l'amour, c'est une valeur très 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 large, quoi.
C'est-à-dire, c'est pas la vie ou l'amour, c'est la vie et l'amour.
Pour moi, c'est si vous voulez, c'est l'amour, c'est une énergie.
Absolument,
et je vais mettre sur le même plan, enfin pas sur le même plan, parce que ce sont des formes d'amour différentes, mais l'amour qu'on a effectivement entre un homme ou une femme, ou l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, l'amour pour sa famille, l'amour pour le prochain, tout ça c'est une magnifique énergie et qui vous porte.
J'élargirais même, on peut, quand par exemple moi j'aime vraiment la nature, quand je suis dans la nature,
absolument,
j'ai une sorte de sentiment d'amour qui m'envahit et qui me rend
c'est pour ça que je dis que c'est divin. Pour moi, c'est une sorte de preuve de la présence, d'une sorte de présence divine, qui est la création elle-même.
Oui, pourquoi pas, au sens que bon, ça nous échappe, ça nous... Ça va plus haut que nous, quoi.
C'est-à-dire que la personne qui va rester trop dans la mort, et on revient sur le jeu de mots, hein, de l'ouvrage, finalement, du titre, plutôt que de rester dans l'amour, est-ce que ça lui a apporté, va finalement s'enfermer dans un cimetière, hein, de vie. Ça va être terrible.
Oui,
même si c'est très compliqué, bien évidemment, le décès de la personne aimée, il faut l'accepter, ça demande beaucoup de temps.
Et d'ailleurs, si certains qui nous écoutent ont perdu justement leur femme ou leur mari, hein, vous pouvez bien sûr témoigner et raconter aussi comment on surmonte ça et
comment on fait face à cette épreuve très douloureuse de la vie.
Vous parlez de cimetière, moi je pense à cette phrase, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Oui. C'est une phrase de Gibran. C'est vrai, je pense qu'effectivement, alors qu'on soit croyant ou pas, de toute façon, ceux qui sont partis nous survivent à partir du moment où on reste, où on pense à eux, où on est dans cet amour. Et quand il vous arrive effectivement un drame, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on rebondit? Comment on se redresse? Et comment on transmet l'expérience qu'on a vécue?
Vous ouvrez très très bien votre ouvrage par cette citation de Romain Gary. Alors, j'ai pas sous les yeux au tout début.
Oui.
Qui est effectivement
qu'il faut pas avoir peur de l'amour, c'est juste un bon moment à passer.
C'est ça, voilà.
Voilà, avec l'humour cher à Gary. Et c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui fuient l'amour, qui ont peur de faire des expériences. Alors on peut se planter, mais au moins on a essayé, et puis peut-être un jour on va rencontrer effectivement le grand amour.
Oui, et on en retire des choses positives.
On va donner la parole à Fanny qui nous a rejoint. On a perdu Séverine, c'est bien dommage parce que justement elle voulait témoigner en ce sens. Bonjour Fanny.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Pascal.
Bonjour Fanny.
Donc moi j'étais très sensible au sujet que vous avez abordé, Monsieur Brunet, que vous continuez dans votre émission, parce qu'en fait moi je suis responsable d'une structure en banlieue parisienne qui accueille les jeunes. Et effectivement, moi ce qui m'avait un peu interpellée, c'est que l'un des journalistes, Monsieur Brunet, disait auparavant que il fallait discuter avec les parents, les parents devaient discuter avec les enfants, et qu'on pouvait pas trop faire grand chose avec face à des systèmes tels que Périscope, toute cette numérisation du monde. Mais en fait, ce qui est important de prendre en compte, c'est que les jeunes, moi en tout cas, je travaille auprès de la jeunesse depuis plus de 20 ans, les parents que je reçois, ils sont à 10 milliards de kilomètres de discuter avec leurs enfants. Je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'on on y a des mondes très opposés. Alors évidemment, quand vous avez un parent qui a le background culturel, qui a suivi les études, qui a la disponibilité du temps du cerveau, pour pas reprendre une célèbre formule, il peut discuter, il peut échanger avec ses parents. Mais moi, les gamins que je reçois dans ma structure, j'étais en pied de cité, j'étais en maison de quartier, c'est impossible, quoi. Les parents, ils arrivent, ils sont déjà avec des gamins à 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils savent plus quoi faire.
Mais Fanny, j'entends bien ce que vous dites, parce que hier soir j'ai regardé sur Canal La Tête Haute ce film qui avait été primé à Cannes d'ailleurs, où justement on voit des gamins qui sont complètement, les parents sont complètement débordés, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai phénomène de société.
C'est absolument dramatique. Moi, j'entends en consultation de manière permanente, et la vie actuelle que tout le monde mène empêche et fragilise encore plus les moyens de communication avec ses enfants. Et les enfants, ils se réfugient dans des moyens de communication, internet, réseaux sociaux, etc. Ils sont même à table. Vous le voyez, même les parents parfois, ils sont connectés sur leur smartphone plutôt que d'échanger entre eux. C'est très 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 compliqué. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On est fatigué le soir quand on rentre, on n'a pas forcément envie d'écouter les petits soucis, les petits tracas. Or, c'est fondamental, comme dans un couple, le soir, il faut rentrer et puis se raconter des choses, peut-être qui vont être totalement banales, c'est pas grave.
Sans compter que le nombre de familles explosées avec monoparentales, enfin.
Et on peut pas tous dire.
Mais je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que vous êtes médecin, enfin, je sais pas si.
Pascal est psychanalyste et thérapeute. Oui.
Eh bien, tout à fait. Donc, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, il faut prendre ce temps. Mais il y a des gens qui sont tellement éloignés de ça, on ne peut même pas mesurer. Je pense que les travaux des sociologues doivent pouvoir prendre en compte ça. J'ai pas le temps de tout lire, malheureusement, mais on ne peut même pas imaginer à quel point les gens sont éloignés. Je suis moi-même parent, je vois le temps, l'énergie que ça me coûte. Je travaille avec la jeunesse dans la journée, je rentre, j'ai deux gamins, je passe mon temps à essayer de discuter avec eux, etc. Mais ça demande une énergie telle. Les gens ont et encore, moi j'ai bac plus 4, il y a des gens qui n'ont pas le bac grande culturelle. Alors, je dis pas que c'est parce qu'on a bac plus 4 qu'on s'occupe de mieux de ses enfants, mais en tout cas, j'ai réfléchi à ces questions de l'éducation, etc. Mais moi, les parents que je reçois, et je vous dis, en 20 ans de pratique professionnelle pour une collectivité, je crois que c'est le meilleur des mondes. Et je crois que vraiment, les pouvoirs publics sont totalement responsable, le politique est responsable de ne pas donner les moyens aux structures qui doivent accompagner la jeunesse sur les territoires et encore plus dans les territoires.
Je pense, vous savez, Fanny, je pense qu'en effet, il faut prendre conscience que notre société actuelle n'a plus rien à voir avec la société d'il y a 30 ans. Mettre la responsabilité sur les parents, c'est un peu trop facile. Je suis d'accord avec vous, Fanny. En même temps, bien sûr que les parents ont leur rôle à jouer, mais il n'y a plus de l'éducation nationale, on n'a plus le droit de réprimander un enfant. Le service militaire, on l'a supprimé. Donc il n'y a plus de structure sociale, si je puis dire, qui remet un petit peu, qui recadre un petit peu à un moment donné, parce que ces enfants-là, il faudrait les recadrer bien avant 14 ans, Pascal Neveu.
Oui, enfin, peut-être pas passer pour des réacs mais c'est une réalité. On a vu en même pas 10 ans, et je le vois au fil des années, en même pas 10 ans, ce qui se passe chez les adolescents, chez les jeunes adultes également. Perte de repères complet, recherche de valeurs idéologiques ailleurs, etc. Enfin, il y a plein d'études sociologiques très très intéressantes qui expliquent ce qui est en train de se perdre actuellement dans nos sociétés. Enfin, on est très inquiet et bon nombre de nos conférences, de nos colloques portent là-dessus en pédopsychiatrie ou en pédopsychanalyse sur ce que on ne fait plus. Quand je dis on, c'est un on collectif. Oui, c'est à la fois la République, les parents, l'éducation nationale, etc. Et on incrimine absolument personne. C'est très, très, très compliqué ce qui se passe actuellement.
C'est très compliqué. Et nous, moi, je sais, j'appartiens à un réseau qui s'appelle le réseau d'information à la jeunesse. C'est en lien avec le CIDJ. Et c'est vrai qu'on essaie de mettre en place des choses, mais avec des petits moyens, des tout petits moyens. Et là, en l'occurrence, pour rebondir ce que vous disiez, on organise le 14 mai un débat philo avec des ados à Colombes. Oui. En l'occurrence, c'est la collectivité qui est avoisinante. Oui. Sur le mal et le bien s'apprennent-ils? Déjà, des petites choses comme ça. On organise aussi le 4 juin une initiative autour justement des problématiques des comment faire avec nos ados, mais c'est avec des petits moyens, quoi. Je veux dire, c'est des petits moyens, des petits. Et vraiment, les pouvoirs publics ont un rôle fondamental à ça.
C'est pas forcément, c'est pas des petits moyens, c'est beaucoup d'énergie, de cœur et d'écoute. C'est donc des grands moyens, Fanny. Ouais. Soyons positifs.
C'est ce que j'allais dire, moi, puisque comme vous savez, j'ai élevé mes enfants seuls, de l'âge de 4 ans à maintenant. Je reviens à mon credo qui est effectivement l'amour. Là, on m'appelle l'écrivain de l'amour maintenant, mais je pense qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est parent isolé, c'est pas parce que on a perdu son job, etc. Ce qui m'est aussi arrivé après la disparition de ma femme. Les enfants en fait saisissent énormément de choses à partir du moment où ils sentent cette énergie d'amour, même dans les pires conditions, ils vous suivent et ils se redressent. C'est mon credo. Et on a l'impression que ça sert à rien tout ce qu'on fait, puis après on se rend compte qu'à l'âge de 20 ans, ils vous ressortent des choses qu'on leur avait inculquées. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas du tout fait attention.
Oui, et puis encore une fois, c'est évidemment toujours horrible une adolescente qui se suicide, mais le suicide chez les adolescents, c'est pas nouveau.
Malheureusement, les chiffres sont effrayants.
Et ça a toujours été. C'est des périodes, encore une fois, rappelons-le, où on est en plein bouleversement.
En plein questionnement identitaire, sur soi, sur sa vie, questions existentialistes, etc.
En tout cas, merci Fanny d'avoir réagi.
Et bravo pour ce que vous faites.
Et absolument, bravo pour ce que vous faites. Et vous pouvez réagir, bien sûr, sur cet événement également, si vous le désirez, au 32-16. Mais pour l'instant, on retrouve notre fil d'Ariane et nous allons parler d'art vaginal. Alors là... Oui. On s'incline. Hein.
Mais plus rien ne vous surprend aujourd'hui, hein, franchement. Megumi Igarashi est une artiste japonaise de 44 ans qui fabrique donc des objets tout droit inspirés par la forme de son vagin. Alors elle vous fait des sculptures de plâtre, des peluches, des études de protection de portable. Elle fait même des scènes de guerre avec des soldats qui tombent dans les tranchées. Et en fait, les tranchées sont la représentation de son vagin entre ses deux jambes. Vous avez des photos, vous allez voir sur rnc.fr.
Ça, c'est vous plaire, c'est très castrateur.
Oui, mais ils ne sont pas morts, vous voyez. Ils luttent, ils s'accrochent pour monter aux parois de ce vagin incroyable. Non, elle a été connue surtout, non pas pour ses représentations de paysages assez étranges, mais surtout par le fait qu'elle ait construit un kayak s'inspirant encore une fois de son vagin. Elle a même décidé de créer des modèles à communiquer avec des images 3D codées pour que les utilisateurs puissent en faire des copies de ce kayak. Et elle avait été arrêtée en 2014 parce qu'elle avait levé des fonds en ligne pour financer justement la construction de ce fameux kayak. Et puis elle a tellement fait parler d'elle que beaucoup de personnes ont voulu la soutenir. Des milliers de personnes ont signé une pétition pour demander sa libération, ce qu'elle a réussi à avoir.
Un peu pathologique quand même aussi. Là,
très pathologique.
Je n'ai rien à dire par rapport à cela, mais il y a des photos là assez consternantes. Elle est choquée elle-même par rapport à ce qu'elle provoque.
Je ne sais pas si elle est choquée, mais elle a l'air un peu illuminée. Hein, quand on voit son visage souriant, elle est plus illuminée que radieuse, je dirais. Mais ce qu'il faut savoir dans cette histoire qui est étrange, c'est qu'au Japon...
Elle vit des orgasmes.
C'est certainement. Au Japon, c'est très paradoxal, parce que d'un côté, vous avez un marché florissant de la pornographie qui pèse quand même des millions, voire des milliards d'euros. Et d'un autre, la représentation d'organes génitaux, photographiés ou filmés, est strictement interdite. Et vous savez très bien qu'il y a des festivals aussi où le phallus est mis en avant. Donc, on a du mal à savoir ce qu'il faut mettre ou pas dans le bien ou dans le mauvais. Enfin, là, en l'occurrence, c'est peut-être pas un modèle artistique.
J'écoutais aussi.
Ça me fait penser au titre de cette pièce de théâtre que j'ai pas vue d'ailleurs, qui était Les Monologues du Vagin.
Oui, c'est ça.
Non, on compare pas. C'est ce qui n'est pas comparable. Non, franchement, Jérôme Arnaud-Wagner.
Quand on dit que les hommes pensent uniquement avec leur.
Elle pense bien avec son vagin. Mais c'est pas la seule. Vous avez une artiste suisse aussi, qui est à la foire d'art contemporaine à Cologne. Alors, accrochez-vous, elle est arrivée entièrement nue avec des œufs glissés au fond du vagin. Et dans ses œufs, il y avait des colorants. Et elle a glissé sous ses jambes une toile blanche.
Elle
a pondu ses œufs pour créer une œuvre d'art unique, exclusive, inédite. Une peinture.
Quelle œuvre d'art.
Une peinture en pondant des œufs remplis de peinture.
C'est, pour une fois que c'est pas anal, c'est vaginal.
Vaginal, sa performance s'appelait Plop Egg. Et elle dit, je crée et j'utilise la source originale de la féminité, mon vagin. J'ai utilisé l'œuf comme le symbole de la naissance. Et elle compte bien vendre ses œuvres, comme l'a fait l'artiste Piero Manzoni, qui lui avait placé ses excréments dans des boîtes de conserve. Et il a quand même vendu 30 000 euros pièce.
Oui, oui, il y en a plusieurs.
30 000 euros pièce, c'est pas une blague, moi je dis. Mais c'est là où on voit où commence l'art, à partir de quel moment on peut juger que telle ou telle œuvre est une œuvre d'art ou non.
Ouais, c'est le rapport entre la créativité, la naissance, la destruction, tout ça s'entremêle totalement. Il y a des écrits célèbres sur le sujet. Mmh. M'étonne pas qu'elles aient fait ça, mais enfin, mettriez ça chez vous là.
À moi, personnellement,
kayak,
je suis totalement à l'ouest là. Je ne vois pas en quoi c'est de l'art. Je ne vois pas en quoi c'est érotique ni pornographique d'ailleurs.
Là, c'est de l'art.
Je dirais éventuellement obscène, moi, personnellement.
Oui, oui, oui. Voilà. Bon. Bah, du coup, pour votre anniversaire, je vous offre pas ce qu'une artiste a fait. Une écharpe.
Montrez.
Mais je vous en avais parlé une fois. L'écharpe d'une femme qui se rentre une pelote de laine encore une fois dans le vagin et qui tricote une écharpe avec. Et elle fait une écharpe bicolore parce qu'elle tricote pendant ses menstruations, vous voyez.
C'est intéressant. Voilà. Non mais ce qui est dommage finalement, c'est qu'on vient de parler des jeunes qui savent plus très bien où on en est, etc. Et puis vous nous racontez des tas de choses aussi qui doivent pas aider beaucoup les jeunes à se retrouver et à savoir finalement ce qui est beau, ce qui est. C'est vrai.
Ouais, mais là,
on essaye d'élever le débat. On essaye d'élever le débat. On parle d'amour. On parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'air tous consternés.
Non, ouais, c'est consternant.
Ce qui me frappe, c'est que c'est le sien. C'est-à-dire que voilà. Donc en fait, c'est une espèce de narcisse en fait. Ouais. Elle se regarde. C'est à chaque fois le sien. C'est pas n'importe lequel. C'est le sien. Donc elle ne fait que se regarder quoi. Donc c'est.
Et elle a une sexualité cette femme.
Ah, je suis pas allée pousser l'investigation jusque là.
Bah, c'est la question centrale.
Ah oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle fait de son vagin?
Mais écoutez, je vous trouve son numéro.
Des œuvres d'art, parce que vous n'avez rien compris. Elle fait des œuvres d'art de son vagin.
Elle fait, voilà. Elle fait pas l'amour, elle fait de l'art.
Ben moi, je vais garder le pénis comme pinceau. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant et vous pouvez bien sûr réagir au 32-16.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.
Et un petit tour du côté de rmc.fr avec Alain qui nous envoie ce mail. Bonjour, je suis assez interpellée par votre sujet du jour parce que depuis 3 ans, j'ai une femme que j'aime particulièrement mais qui n'est pas mon épouse et je n'ose pas quitter mon épouse et c'est vrai que je me dis que finalement derrière tout ça, on peut se poser la question de qui j'aime et est-ce que c'est pas finalement moi que j'aime avant tout puisque au fond je fais souffrir les deux femmes. Merci de votre éclairage. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Neveu, en tant que psychanalyste?
Mais c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est une question de psychanalyste, là. Mais effectivement, combien de fois j'entends des personnes qui sont déchirées, qui en aiment une autre, qui aiment les deux pour des raisons différentes également.
Bien sûr.
Parce qu'il y a compatibilité entre les deux. Seulement, on peut pas faire un mix entre les deux. Mais à un moment donné, je pense que notre cœur, c'est réellement là où nous porte le bonheur. Et l'amour, il est au fond de notre cœur. Il n'est pas simplement dans des attaches purement matérielles, dans des relations de culpabilité également avec l'autre.
Oui, mais je pense que c'est la question que doit se poser Alain. C'est est-ce qu'au fond, il est heureux dans cette situation-là? Parce qu'après tout, on peut être heureux dans une situation de on a parlé
face.
De double vie avec vous déjà. D'ailleurs, je crois Pascal Neveu.
Oui.
Pourquoi pas? En revanche, si c'est une situation qui le fait souffrir, que ce soit par culpabilité ou parce qu'il souffre à la place des autres, j'en sais rien. À ce moment-là, à un moment donné, il faut prendre une décision.
Il va falloir qu'il tranche. Et en plus, il sait qu'il fait souffrir les deux.
Enfin, il sait, c'est ce qu'il pense. Si par exemple, si son épouse n'est absolument pas au courant, peut-être qu'elle ne souffre pas. Sa maîtresse vit peut-être très bien la situation. On n'en sait pas plus.
Oui, tout dépend de la systémique. S'il y a un équilibre entre eux, eh bien, que vaille.
Mais je crois qu'il doit vraiment d'abord, lui, se poser la question. Encore une fois, moi, je crois qu'il faut arrêter de vouloir répondre à la place des autres. Il faut déjà répondre le plus sincèrement possible, si encore c'est possible. Mais au moins.
Moi, dans ma vie, de quoi j'ai envie? Et qu'est-ce qui va me rendre heureux?
RMC, L'AL, Amour et vous, Brigitte L'AL.
Pascal Neveu est avec nous, on évoque la vie ou l'amour à l'occasion de la sortie de ce roman de Jérôme Arnaud Wagner qui est avec nous également. On a retrouvé Séverine et c'est très bien puisque Séverine vous êtes, si je puis dire, en plein dans le sujet du jour. Bonjour Séverine.
Oui, bonjour à tous les deux.
Bonjour Séverine.
Bonjour. Excusez-moi, je suis taxi donc je vais me dépêcher simplement pour dire que voilà, j'avais un ami à l'époque et apparemment il aimait encore son ex-femme et parce qu'il avait un fils. Donc par amour, j'ai préféré lui dire, si t'as toujours des sentiments pour eux, voilà. Donc au départ, il était partagé, il est resté un peu avec moi, et puis après, je voyais que ça allait pas, donc je l'ai laissé partir malgré que je l'aimais.
Et comment vous l'avez vécu ça?
Je suis bien dans ma tête, moi, donc voilà.
Vous êtes bien dans votre tête, c'est-à-dire
oui,
que, parce que en même temps, j'entends ce que vous dites, hein, mais en même temps, on peut se dire, bon, de toute façon, vous ne trouviez pas votre place auprès de cet homme.
Bah si, je sais très bien, il m'aimait énormément aussi, mais bon, je voyais
oui,
que...
Oui, mais il y avait quelque temps, chose à trois, quoi, voilà. En quelque sorte.
Voilà, de temps en temps, il y avait quelque chose, ça n'arrivait pas souvent, mais... Bon, j'ai préféré lui dire, ben écoute, ça peut pas aller, quoi.
Mais peut-être qu'il était trop lâche, lui, pour prendre la décision.
Ah oui, 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 tout à fait.
C'est ça, donc à un moment donné, on prend...
J'ai pas eu de problème pour le lâcher, hein.
Oui, mais je veux dire par là qu'à un moment donné aussi, on prend la décision à la place de l'autre, parce qu'on sent bien que...
Oui, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon.
On est forcé, oui, oui, vous avez raison, on n'a pas le choix. Autrement, j'aurais été malheureuse, je pense. Donc, j'ai préféré, malgré que je l'aimais, le laisser partir, ça c'est sûr. Et malheureusement, j'ai connu une autre personne que ça a duré 6 mois. Il me disait qu'il m'aimait énormément. Et puis là, c'était différent. C'est parce que j'avais trop de famille. Donc, on a préféré arrêter là, vous voyez. Et pourtant, on s'aimait énormément. Et par amour, il faut mieux pas arrêter, tout simplement.
Bon, en tout cas, vous êtes une femme de tête, hein, Séverine.
Oui, je pense.
Oui,
vous avez fait des choix, vous.
Je pense.
Vous ne laissez pas courir les situations. Hein.
Non, ça ne sert à rien.
Pour éviter de souffrir, en fait.
Oui, oui, bah, tout
à fait.
Donné,
ça ne
sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien de rendre les gens malheureux. Et après, on finit par se détester. Donc, voilà. Il faut mieux arrêter et que l'amour reste là. Et puis, voilà.
Et vous savez, de temps en temps, enfin, c'est pas de temps en temps, mais on peut pas forcer non plus l'autre à nous aimer, hein. S'il le veut pas, il le veut pas. Chacun mène son destin.
Chacun a sa manière d'amour, hein, de toute manière. Moi, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu ma mère, là, d'un cancer généralisé. Et c'est pareil, hein, on les laisse partir, on leur dit, bah, tu peux partir maintenant parce que je t'aime, mais bon, pour pas te voir souffrir, t'as le droit de partir. Mmh. Donc, c'est une sorte d'amour aussi.
Bien sûr. Ben voilà. Merci Séverine de votre témoignage.
Merci Séverine.
Et on vous laisse à votre taxi.
Je vais retrouver mon client. Voilà.
Allez-y, allez-y.
Et puis on vous écoute tous les jours.
Je sais que vous êtes nombreux en tant que chauffeur de taxi à m'écouter et donc je vous salue tous. Voilà.
D'accord, et je vous remercie beaucoup.
Je dois dire déjà que j'ai pris un taxi juste pour venir chez RMC et que je pense qu'elle est en train de nous écouter parce que je lui ai parlé, je lui ai dit que j'allais être interviewé et elle me dit ah mais j'écoute très souvent Brigitte Lay.
Ben on la salue également et voilà notre wiki sexe du jour Pascal Neveu. Lorsqu'on découvre que le conjoint ou la conjointe de son ou sa meilleure amie est infidèle, est-ce que il faut prévenir ou est-ce qu'on garde le secret?
Ah, vous connaissez bien la réponse, on a déjà fait des émissions sur le sujet. On ferme sa gueule. Enfin, pardon, je le dis de manière très crue, parce que qu'est-ce que ça va engendrer par la suite? Et d'ailleurs, pourquoi on veut le faire? De quel droit on va s'autoriser à révéler un tel secret? Déjà, si vous êtes au courant, c'est peut-être parce que votre ami est dans la confidence, ne va pas bien dans son couple, etc. Je pense qu'il faut communiquer avec, faut pas moraliser non plus, chacun mène sa vie comme il le veut, on n'a pas à juger, mais quel désastre par la suite que de raconter à autrui. Vous risquez de tout briser et de briser même la relation amicale également qui vous unissait auparavant.
Mais c'est le problème, c'est que c'est parfois un secret lourd à porter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être aller en parler à quelqu'un d'autre, de totalement extérieur à tout ça.
Il y a l'autre petit souci qui est également de demander à l'autre d'être complice également de l'infidélité. Et alors là, on est totalement écartelé, on ne sait pas comment se positionner. C'est compliqué. Hein.
Quand on devient l'alibi, c'est très compliqué aussi. Mais on a le droit de refuser d'être l'alibi si on ne le supporte pas.
Je pense que, comme je l'entends très souvent également, un bon nombre de personnes qui sont infidèles, ils cloisonnent absolument, ils ne le racontent pas à leurs amis pour éviter tout drame futur. Et puis, parce qu'ils gèrent leur vie en âme et conscience.
Ces réponses au Wikisex, vous les retrouvez bien sûr sur rmc.fr. On va se retrouver tout de suite après les infos. Vous pouvez continuer bien sûr à réagir au 32-16. Je crois qu'on va revenir sur les réseaux sociaux juste après les infos avec Sophie. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, la L'Amour et vous.